Bonjour. Je voudrais savoir à quel point je suis content de me retrouver ici. Surtout d'avoir la grâce pour partager ces quelques mots. Et vraiment, je vous remercie aussi d'avance pour l'indulgence que vous aurez à mon égard, pour les erreurs que je pourrais faire, les quelques hésitations. Et même peut-être parfois avec quelques douleurs, j'espère que ça arrivera pas. Mais ce ne sont pas du tout mes paroles. Et je vous assure que je vais parler avec ma propre intelligence, ma propre conception du même, en faisant en sorte que nous voulons tirer un livre. C'est vraiment, gardons l'esprit que ce sont les paroles de Dieu qui servent à m'inspirer. Et c'est véritablement ce qui a. Donc aujourd'hui, on va faire du coup le deuxième pas de cette longue randonnée qu'on va faire dans les épîtres aux Philippiens, et qui fait suite directe à l'introduction de Michael la semaine dernière, qui parlait de la souffrance. Et je vous invite vraiment à l'écouter si vous pouvez sur le site de l'Église pour pouvoir rattraper son sermon, mais aussi pour mieux comprendre ce que je vais dire aujourd'hui. Et c'est déjà une grâce, et avec le travail qui a été d'ores et déjà accompli, on peut savoir, et il faut garder en tête, que la lettre a été écrite dans un temps qui est très joyeux, qui exprime beaucoup la reconnaissance de Paul envers les Philippiens. Et gardons cette mentalité, que nous sommes dans la joie, qu'il n'y a que la reconnaissance dans cette lettre. Alors je vous invite maintenant à lire avec moi les 5 premiers versets de l'Épître aux Philippiens, du chapitre. Verset 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis les premiers jours jusqu'à maintenant. Et donc on a dans ces deux premiers versets qui introduisent la lettre d'une manière très classique, mais on peut déjà en révéler beaucoup de choses. Ici on a donc Paul et Timothée qui s'introduisent, qui se mentionnent comme les auteurs de la lettre, et il faut savoir que l'un comme l'autre, on les considère comme des grands noms de l'Église, l'Église avec un grand E majuscule, qui désigne celle qui est universelle, mais aussi un peu plus d'un côté local, sur toute la région de la Méditerranée. Plus particulièrement pour Paul, on le considère comme un des plus grands héros de la foi, tant pour l'impact qu'il a eu dans la propagation de l'Évangile, mais aussi pour tous les enseignements, pour les lettres qu'il a écrites aux différentes églises et qui ont pu circuler en Europe et en Asie mineure. Et ce qui est plus impressionnant, c'est qu'on en dénombre 14 qu'il a implanté. Alors que déjà, bon, pour un pasteur, une église, c'est assez complexe. C'est, je pense, une source de complications. Paul a réussi à tenir ses 14 églises par l'enseignement et par l'encouragement. Bon, certes, il avait des collaborateurs et d'autres frères qui le soutenaient, mais je trouve que c'est une véritable force qui, en plus, s'est inscrite dans le temps avec toutes les lettres qu'il a pu écrire. Alors, en l'occurrence, on a celle aux Philippiens, mais il est évident que la correspondance est faite par d'autres moyens et avec d'autres lettres aussi. On a aussi donc aussi Timothée, qui lui est un homme et surcroît plutôt jeune dans le service par rapport à la religion juive et bien avec toutes ses habitudes. Et on voit de lui que c'est un homme que Paul aime beaucoup, mais d'une manière qui est vraiment fraternelle. On peut le voir dans Philippiens chapitre 2, verset 22, qui dit: Vous savez que Timothée a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Et de cette relation, on peut ne pas douter un seul instant que Timothée a soutenu le vieil homme qui était Paul. Et c'est ça aussi, il faut le savoir, à cette époque, lors de la rédaction de ces lettres, il était environ âgé de 50 ans. Et je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer et même faire jouer votre mémoire en vous remémorant un politicien, un homme qui a du pouvoir et de l'influence, se dire qu'il a été serviteur, parce que c'est comme ça qu'il s'est désigné. Je ne pense pas que Zemmour serait le premier à se dire ça lui-même, mais peut-être servir une idéologie, un parti ou même une croyance, c'est possible, mais être serviteur d'une personne, c'est compliqué. Surtout dans notre monde aujourd'hui, on se dit qu'il faut être les maîtres de notre vie, il faut qu'on soit au contrôle de toutes les choses qui se passent. Mais Paul était comme ça. En plus, il avait 50 ans, c'est un âge où c'est respectable, on doit l'honneur à cette personne. Mais malgré tout ça, malgré l'intelligence qu'il a pu développer, malgré toutes les connaissances bibliques qu'il avait, il se disait serviteur, mais pas de n'importe qui en plus, de Jésus-Christ. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui a porté la bonne nouvelle sur la terre. Et c'est pour ça que c'est donc plus marquant que quand il dit serviteur, certes, ils ne dénigrent pas leur fonction, ni même l'importance qu'ils ont dans l'implantation des églises, l'encouragement, mais c'est parce qu'ils parlent au nom du Seigneur. C'est parce que c'est leur autorité. Et prenons exemple sur. Et je pense que c'est vraiment important de revenir un peu sur l'histoire de ces personnes, l'influence qu'ils ont eue, et en particulier celle de Paul, parce qu'il était certes âgé de 50 ans, mais également, il était aussi en prison, à Rome précisément. Et quand on a ces faits en tête, je pense qu'on a une compréhension de la lettre qui est bien plus juste, mais aussi encore plus belle, comme on va le voir plus tard. Par exemple, si vous prenez votre Bible en Actes, chapitre 28, verset 26, avec les versets 30 et 31, il faut lire toutes les circonstances de son incarcération. On peut voir. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée, et recevait tout ce qui venait de le voir, prêchant le royaume de Dieu, et enseignant ce qui concernait le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Alors, je sais qu'on peut dire que les conditions de vie n'étaient pas si terribles que ça, qu'elles étaient même plutôt plaisantes, parce qu'on peut en savoir, mais Paul est quand même en prison, et il reste persécuté, ce qui est une conséquence de l'attaque que les païens avaient de notre foi. Et je pense que c'est aussi une grande source de souffrance pour Paul. Vous savez qu'il était actif par l'écriture de la lettre, mais aussi en visitant et en voyageant toutes ces églises. On en donnait 3, même 4, selon certains historiens. Mais imaginez un homme qui est de sa trempe, resté dans une maison pendant 2 ans, et ne pas pouvoir voyager, ne pas pouvoir encourager les frères et sœurs directement en les voyant en face à face. Mais là aussi, c'est une grande source de couragement, parce que malgré toutes ces conditions, Paul est dans la joie. On verra aussi plus tard qu'il s'attendait à mourir, et que même cette mort, il la voyait comme un gain. Mais même dans le cas de sa libération, c'était aussi une promesse de pouvoir retrouver tous les Philippiens et partager la joie avec eux. Et je pense qu'ici, on tire déjà notre premier enseignement, c'est que la joie se trouve au-delà des circonstances du monde. Et qu'elle prend source dans la souveraineté de Dieu, que toutes ces choses du monde, que toute mon existence lui rendra gloire. Et toute la lettre Philippiens a été écrite dans ce contexte, avec cette pensée, en fait. Donc après cette longue introduction, je vais un peu revenir sur les 3 derniers versets qui sont le cœur central de ce message, où dans une première partie, on va voir que il y a une véritable relation entre Paul et le Saint. Je vais vous relire les 3 derniers versets qui disent « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Mais ce sont donc tous mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Et les emphases que j'ai fait sur ces pronoms, ils sont importants pour dire vraiment que c'est bien de Paul aux Philippiens que s'adresse la lettre. Et sur cette relation, on a 3 principes dont on peut tirer un enseignement. Nous verrons ainsi comment le souvenir entretient la relation et la reconnaissance entre les chrétiens. Le rôle de la prière de reconnaissance qui manifeste cette relation. Et enfin, comment, en prenant part à l'Évangile, on peut maintenir un homme âgé de 50 ans et en prison dans la joie. Donc au verset 3, on peut voir que Paul ne prend pas un instant pour dire à quel point il est heureux de communier avec les Philippiens. Genre, grâce à mon Dieu, de tout le souvenir que je garde de vous. Alors là aussi, on va refaire un petit tour en arrière d'une dizaine d'années. Parce que quand Paul et Silas sont à leur 2e voyage, ils partent alors de Jérusalem et veulent évangéliser en Asie. Et même là, c'est le Saint-Esprit qui les arrête et qui leur dit « Non, il faut que vous alliez en Macédonie. » Et ici, Paul reçoit aussi une vision d'appel au secours. pouvez prendre Actes chapitre 16 pour voir plus les circonstances de son voyage, plus précisément, au verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédonie, secours-nous. Et c'est après cette vision de Paul qui cherchait aussitôt à se rendre en Macédonie. Et c'est assez clair que l'Éternel veut qu'il aille là-bas, pas dans un autre endroit, parce que le besoin est immense. Et tout ça, c'est Dieu qui a fait ce miracle. Et je pense que pour Paul, c'était un de ses premiers bons souvenirs qu'il a livré, de se dire que c'est Dieu qui lui a parlé. Et je pense que nous aussi, on serait bien contents si Dieu nous pouvait nous parler aussi précisément, avec autant de clarté sur les directions de notre vie. Et c'était déjà un grand réconfort pour Paul en prison. Et une fois qu'ils sont arrivés en Macédonie, ce qui marque aussi leur entrée en Europe, on a donc ce groupe de voyageurs qui débarquent à Philippe. Et il faut savoir que Philippe était une colonie romaine, où on trouvait beaucoup de vétérans de l'armée, et bon, jouissaient de nombreux avantages. Par exemple, avec la citoyenneté, ils étaient ignorés d'impôts, ils pouvaient avoir le recours à la justice. Et c'était donc une ville riche et prospère, qui était au carrefour de beaucoup de routes commerciales. Mais on sait aujourd'hui que la richesse n'est pas le moteur principal qui nous cherche à nous tourner vers Dieu, que ce soit pour nous actuellement, même dans l'ancien temps. Et même au contraire, à Philippe, ils étaient hostiles. Ils étaient hostiles à toute forme de vérité. Dans ces villes romaines, également, on trouvait des femmes libres et indépendantes qui participaient ouvertement au débat public, et à la différence des juifs. Et ces femmes étaient donc influentes dans les élections, par exemple, des stratèges, des chefs de la ville, qu'on appelait comme ça avant. Et ces femmes converties, on sait qu'elles vont exercer une grande influence dans l'église naissante. Par exemple, dans le chapitre 17 de Actes, on va se capter. Alors, les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Bérée toute la compagnie. Et, verset 4, excusez-moi, et qui disait, quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs, craignant Dieu, et beaucoup de femmes de qualité. Et je pense que c'est important qu'il ait mentionné. Il n'avait pas eu un grand rôle dans le début de l'église. Et parmi elles, on sait que Paul va trouver une de ses premières collaboratrices et une de ses chères amies, qui est en l'occurrence Élie. On l'appelle la première chrétienne européenne, dont on connaît ce nom, et deviendra le second bon souvenir de Paul qui a créé Philippe. Parce qu'en effet, lorsqu'elle reçoit l'évangile, avec enthousiasme, elle décide aussi d'offrir l'hospitalité, c'était par miracle. Vous pouvez prendre le verset 13 du chapitre 16 de Actes. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte du groupe de missionnaires vers une rivière où l'on avait coutume de faire la prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur et fut attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'il était baptisé avec sa famille, elle nous fit ses demandes. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Mais pour l'église de Philippe, il n'est pas seulement question de Lydie, mais également de d'autres personnes. Alors que le groupe marchait dans la ville, une femme qui avait un esprit de puissance qui lui permettait de prédire l'avenir était possédée par l'esprit mort. Mais Paul la délivre miraculeusement avec l'autorité du Christ. On voit dans le verset 19, le verset 17, écriez, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours, et Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de l'esprit de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et sortit à l'homme. On a cette femme qui a été convertie et qui était sauvée de son esprit malin, mais on a également la famille des géolis. Au verset 24 du chapitre 16, il dit, le geôlier, ayant reçu l'ordre de les mettre en prison, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sept aux pieds. Et ensuite, on pourrait continuer avec toutes les circonstances de l'emprisonnement et de la libération. Et au verset 29, il est dit, alors que les prisonniers étaient libérés, il leur demanda, alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fait sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. et ils annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans leur maison. Et je pense que là, on voit aussi l'importance du Paul dans ses voyages et quelle était sa priorité. C'est que c'était bien le salut des âmes qui lui importait le plus. Et toutes ces conversions étaient un réconfort de Paul dans ses vies. On peut revenir sur Philippiens chapitre 1 à 7. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte de mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile, vous tous participez à la même chose. Et pour Paul aussi, c'est un souvenir qui aura un achèvement qui est glorieux. En plus de la conversion miraculeuse de l'Église, Paul se souvient également de l'obéissance qui s'est démontrée par la libéralité de lui. Et pour ceux qui étaient là la semaine dernière, l'école vous a donné un petit livret de photos, et moi aussi je l'ai reçu. Et quand je l'ai regardé, il y a beaucoup de souvenirs qui me sont revenus en tête, je pense. Et que ce soit pour le départ de Mami, mais également pour tous les baptêmes qu'il y a pu y avoir dans l'Église. Et ce souvenir, ça m'a rappelé la joie par laquelle on était passé, tous les encouragements par lesquels on avait trouvé des sources de réconfort. Et je pense que, en tant qu'Église, on a vécu beaucoup de choses. Et ces mêmes choses qui ont été les conversions, ces baptêmes, elles doivent nous servir à nous réconforter dans ces moments où nous passons par les difficultés. Mais en plus que d'avoir un souvenir, Paul y donne aussi un aspect pratique au souvenir. Alors, quand nous ne sommes pas moralement persécutés, sans choses joyeuses qui se passent dans notre vie, souvenons-nous de la joie qui se passe. Souvenons-nous des joies qui sont passées, parce qu'il n'y a qu'une seule joie qu'on ne pourra pas nous enlever en tant que chrétien. Ce ne sont pas les distractions du monde, ni même tous les hobbies qu'on peut avoir, mais c'est véritablement que Jésus nous a sauvés. C'est la joie du salut, la seule qui peut rester. Nous avons donc eu l'apôtre qui évoque les souvenirs de l'Église pour exprimer sa gratitude envers Dieu et les Philippiens. Alors faisons de même entre les frères et sœurs pour affirmer notre relation. Alors on voit qu'il n'y a pas eu que la prière, qu'il n'y a pas eu que les souvenirs pour affirmer la relation que nous avons, mais nous avons aussi les prières où, que Paul déclare, où Paul les emploie comme des outils finalement à maintenir cette relation. On voit dans le verset 4 de Philippiens 1 qui dit « Ne cessant dans toutes vos prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Et pour moi, c'est assez frappant de voir qu'il écrit autant d'assurance dans toutes mes prières, qui est évidemment une marque d'amour et d'appréciation qui est incroyable, mais qui est aussi une marque d'encouragement. Quand un frère ou une sœur me dit qu'il prie pour moi, que je suis dans ses prières, ça m'encourage beaucoup. Et on a de là un exemple sur lequel on peut tirer un enseignement. En l'occurrence, Paul demande aussi que dans toutes ses prières, notre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Et quand on parle de connaissance en tête d'intelligence, on peut résumer ces notions en ce mot qui est la sagesse. Vous pouvez prendre avec moi Philippiens chapitre 3, verset 8. Qui dit Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, pour lequel je renonce à tout, je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Et c'est bel et bien la connaissance de Jésus-Christ qui nous rend conformes à lui. Or, en plus que cet amour, il augmente en intelligence et en connaissance, c'est elle qui mène à la glorification de Dieu, par le rayonnement dans le monde des ténèbres. Parce que Paul dit bien que nous vivons dans une époque qui est sombre, qui est pleine de péchés, et que ce sont les chrétiens qui sont cette lumière de paix et de joie. Philippiens 2, 15, 17, il dit comme ça. Et toutes choses sont murmures et hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréfrensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ, de ne pas avoir couru en vain, ni travaillé en vain. et même si je sers vos libations pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je m'en réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. C'est là qu'on se rend compte que l'amour, c'est bien plus qu'une émotion, c'est plus que des sentiments, mais véritablement une vérité qui est ancrée dans le sacrifice de Jésus. Alors pour ça, il faut connaître son histoire, sa naissance, ainsi que tous les miracles qu'il a pu faire jusqu'à la crucifixion. Et si on ne comprend pas, si on ne connaît pas ça, je vous invite à revenir sur le verset 14 de Philippiens 1 pour voir un peu plus de cas pratique et qu'est-ce que c'est que l'amour. Dans le verset 14 du chapitre 1, on peut voir que Paul est en proie avec des prédicateurs jaloux. C'est un groupe qui cherche ses satisfactions personnelles avec des motifs impurs. Mais Paul dit, qu'importe. Pour lui, l'évangile va rester annoncé et donc rendre gloire à Dieu. Alors, quand j'ai vu ce passage, je me suis dit au premier abord, mais bon, certes, Paul trouve de la joie dans ce sujet-là, mais c'est un groupe qui fait les choses de la mauvaise manière. Mais c'est là aussi que l'apôtre déjoue et prend ses humains. Et à peine avait-il fini de demander à nos plus sages pour nous et des discernements qu'il a donné cet exemple-là, et ce n'est pas pour rien. On sait bien que Paul discerne les mauvaises intentions de ces personnes, mais se rend compte aussi des bienfaits qu'il a. Parce qu'on peut voir que l'amour pardonne tout, et que quand l'amour croit, toute notre attention se porte en priorité sur les moyens où Dieu est glorifié. Et en tant que chrétien, en tant que sauvé, nouvellement ou depuis des années, notre vocation, c'est de tout faire pour la gloire de Dieu. Et tout comme l'amour pardonne tout, voyons où Dieu peut être glorifié à chaque instant. Et tout comme Paul prie pour la connaissance de leur amour, les Philippiens, eux aussi, ont prié de leur part pour son intercession. Et on voit que Paul ici est tellement reconnaissant par la prière qu'il ne peut que l'encourager à faire de mieux. La prière, c'est plus que juste des paroles, mais c'est véritablement une conversation à laquelle se joignent d'autres frères et sœurs, par exemple mercredi soir, mais même dans des situations tout à fait au hasard. Mais elle est admirablement bien la relation entre les assemblées, et surtout, en l'occurrence, entre les Philippiens et ce frère qui est en prison. On prie non seulement parce que nous avons besoin de prier, mais parce qu'on croit en la puissance d'agir, que Dieu écoute et réponde. C'est vrai que ce ne sont parfois que des mots, mais ce n'est pas n'importe qui le reçoit. C'est parce qu'on a l'assurance que c'est Dieu qui les écoute que l'on peut prier. Une autre chose à retenir, c'est que Paul ici n'hésite pas à exposer sa situation sans se cacher, comme parfois on peut le faire le mercredi soir. C'est un peu compliqué c'est vrai, de tout dire. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout raconter, ça va à quelque chose, mais il faut toujours être précis dans les sujets de prière, dans les sujets de connaissance aussi. Parce que dans le verset 15, il est dit « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et esprit des disputes, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. » Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que cela animé d'un esprit de dispute, non Christ par des motifs qui ne sont pas purs, avec les pensées de multiplicité, cas et tribulations dans le monde. Et on voit ici que Paul est très lucide sur tout ce qui se passe dans l'Église, que même n'hésite pas à le rapporter aux différents frères et sœurs. Mais malgré tout, toujours dans un esprit d'amour. Alors, nous aussi, nous avons besoin de savoir dire les choses correctement, même si c'est un exercice qui est difficile. Parce qu'en fin de compte, la prière revient toujours vers Dieu. C'est Dieu qui est au centre de cette prière. Parce que c'est lui qui a fait déjà croître l'amour qui est en Paul, qui a donné l'esprit de prière aux Philippiens, et qui maintenant fait maintenir le lien entre eux et lui. La prière est donc une véritable arme qui, on peut dire, oxy nos inquiétudes et nos besoins. Alors tournons nos cœurs et notre intelligence vers Dieu. Et Paul nous rappelle ces mots pour terminer cette deuxième partie qui dit « Ne vous inquiétez de rien. » Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. En Philippiens, chapitre 4, verset 6. Confions nos soucis à lui. Maintenant que nous avons vu la notion de souvenir et de la prière, on va s'attarder un peu plus sur qu'est-ce que c'est d'être un partenaire de l'Évangile. Et plus précisément, on pourrait dire comment pouvoir communier avec l'Évangile. On sait que la prière, c'est un outil qui a servi à Paul pour exprimer la joie. Et plus précisément dans sa propagation. mais être partenaire aussi, c'est implique donc une action, certes par les mots aussi, mais également par tout ce qui est avec les visites, mais également le temps qu'on peut prendre ensemble pour étudier un livre, pour même passer du temps ensemble. Et c'est ce que Paul dit ici. Par exemple, pour les Philippiens, on sait qu'ils ont participé à l'évangile avec la ligne d'héritier des dons, en leur envoyant de l'argent, de quoi subvenir aux besoins de l'apôtre. Et il faut se rappeler, du coup, de la fondation miraculeuse de l'Église. Au début, on a certainement des membres qui sont étrangers, grecs ou romains, qui ne connaissent pas forcément toutes les traditions juives, qui avaient certainement des différences culturelles. Mais malgré tout ça, malgré tout ce manque de cohésion, ils ont réussi à persévérer et à pouvoir soutenir l'auteur, donc Paul, dès le début. Et on peut, je pense, estimer à juste raison que c'est une assemblée qui a beaucoup grandi depuis les premiers jours jusqu'à maintenant. Alors, il faut savoir aussi, si vous revenez dans Actes chapitre 16, au verset 40, que lorsque Paul et Silas sont libérés de prison, quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Alors ça peut être un peu déconcertant de dire ça parce qu'on se dit, bon, ils viennent juste d'arriver, ça fait quelques jours à peine qu'ils étaient à Philippe, maintenant ils partent, alors qu'est-ce que va devenir l'Église? Mais juste pour savoir que donc, Luc était resté, l'auteur des résumés des Actes des apôtres, et que c'est lui qui a assuré tout le développement et l'encouragement de cette Église à Philippe. Donc pour Paul, prendre l'évangile, c'est faire connaître Christ et ne pas faire taire sa foi. Il faut savoir la défendre et la confirmer. Je pense aussi à un autre exemple de prendre part à l'évangile, mais c'est le baptême. Aujourd'hui, comme hier, le baptême, ça a toujours été un signe d'engagement avec Dieu et une soumission à l'autorité. Mais même on a des exemples un peu plus concrets qu'on vient de voir avec celui de Lydie, de la famille des Joliers qui sont fait baptiser dès leur conversion, et je trouve que c'est très révélateur de la soumission et du lien qu'ils voulaient avoir les uns avec les autres. Et je pense même qu'aujourd'hui c'est encore plus justification parce qu'on vit dans une société qui s'est dit laïque, qui nous laisse croire à ce qu'on veut mais qui ne permet pas non plus de pouvoir partager dans les lieux publics notre croyance, que ce soit à l'école, même à l'université ou quoi que ce soit. Et alors qu'un baptême, c'est justement un signe extérieur de ce que nous croyons. Et la plupart de mes amis m'ont toujours invité des amis non chrétiens. En l'occurrence, pour moi, j'ai pu inviter mon meilleur ami de l'époque. Et je me souviens que c'était une des seules occasions où il a pu entendre concrètement ce qu'était la parole de Dieu. Et donc être partenaire à l'évangile, c'est rechercher comment on peut partager l'évangile, comment on peut partager l'histoire de Jésus et ce qu'il a fait pour nous sur cette terre. Et c'est par le Dieu, ni le Saint-Esprit, mais la personne de Jésus-Christ, qu'il faut s'appuyer. En conclusion, je veux rappeler que la reconnaissance et les liens entre les frères et sœurs, elles s'entretiennent par les souvenirs. Les souvenirs qu'on a du passé, les événements heureux qu'on a pu avoir les uns avec les autres, mais également de ceux qu'on peut créer au futur. La reconnaissance et la relation, elle s'entretient également par la prière. Soit la prière qui est impromptue, même, ou alors celle qui se fait dans les réunions de prière, les uns avec les autres, tout seul, dans les groupes. Il faut sans cesse chercher cette relation avec les autres, exprimer les besoins que nous avons, mais également la reconnaissance avec des paroles qui sont précises. Et enfin, la relation s'entretient dans le partenariat avec l'Évangile. Parce qu'en tant que chrétien, on a une seule mission, c'est d'amener des âmes à Dieu, quelles qu'elles soient, que ce soit des amis, des proches ou même des inconnus. C'est le vecteur de la foi. Certes, on est sauvé, mais il faut partager cet amour. Et je nous encourage tous à prendre cette chose à cœur, de ne pas venir à l'église juste pour l'ambiance, juste pour trouver un endroit où on peut se relaxer, mais vraiment parce qu'on a un but, c'est que Dieu nous a sauvés et on veut qu'il se réjouisse. J'aimerais terminer ce message par, par un passage en Psaume 51, qui est un encouragement et qui, moi, m'a beaucoup parlé ces derniers temps. Et je pense que Paul aussi s'est bien encouragé avec ça. C'est le verset 14. On peut lire à partir du verset 12. Ô Dieu, crée en moi un corps pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut, avec un esprit de bonne volonté, me soutienne. Et oui, il y a une joie absolue que personne ne pourra nous ravir. Et c'est celle que Dieu nous a sauvés.